Voilà, psaume 139, du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant moi aussi, tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi, et tu dépasses tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi, ou fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant. Même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, avant sans qu'aucune d'elles et pourtant commencer. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Ô Dieu, tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcent ton nom pour mentir. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas... Oui, pardon. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Voilà, c'est un psaume. Est-ce que l'auteur est David ou est-ce que c'est simplement David qui l'a recueilli dans son recueil et qui l'a transmis au temple? Je ne sais pas. Je vous laisse décider ou faire votre idée. En tout cas, c'est un chant. C'est un chant, c'est une prière. On n'a pas, la musique n'est pas parvenue, sa musique n'est pas parvenue jusqu'à nous. C'est peut-être un chant et une prière. En tout cas, je constate que l'auteur s'adresse directement à Dieu. Il lui parle. Il lui dit tu. Je voudrais dire aussi que c'est une forme poétique. Ça veut dire que ces psaumes sont écrits comme des poésies. Et quand on lit une poésie, on doit la lire comme une poésie, pas comme un traité scientifique. Quand il nous parle, alors dans ma traduction, c'est marqué au verset 9, si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, peut-être que vous avez, si je prends les ailes de l'aurore, vous avez déjà vu l'aurore avec des ailes, certainement une image, et que je vais m'établir au-delà des mers. Les mers pour les Israélites, c'est du côté de la Méditerranée, et je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais je voulais simplement préciser que c'est une poésie et donc les codes de la poésie des Hébreux n'est pas tout à fait les mêmes que les codes de la poésie en français. Ne cherchez pas les rimes, mais c'est une poésie. Ici, ce psaume comporte quatre strophes. Chaque strophe a un thème, exprime quelque chose. J'arrête là pour les questions formes, je vais passer au contenu. Mais je vais prendre chaque strophe les unes après les autres. Comme c'est une prière, je vais essayer de ne pas simplement remplir votre cerveau. J'ai le désir de qu'on puisse vivre quelque chose au travers de cette prière, qu'on puisse l'apprendre pour nous. Il y aura peut-être un peu d'interactivité, si j'y arrive. Et puis, voilà. Peut-être c'est l'occasion de changer quelques codes que nous avons nous aussi. Je relis la première strophe, les versets 1 à 6. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant moi aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. J'ai intitulé cette strophe Transparence, mais confiance. Alors, transparence, je ne sais pas tellement si c'était le bon terme. Je vous propose ce terme-là. Ce n'est pas dans le sens que Dieu ne le voit pas ou qu'il voit à travers lui sans le voir. Je le comprends dans le sens qu'il arrive voir en lui, au fond de lui, qu'il lit dans cet auteur comme dans un livre ouvert, où il peut voir toutes les pages en même temps. Et l'auteur se rend bien compte que Dieu, dans sa science parfaite, perce tous ses secrets. Si l'auteur utilise un certain nombre d'illustrations physiques, tu sais quand je me lève, quand je m'assois, tu sais quand je suis dedans, quand je suis dehors, il y a aussi des images qui parlent de quelque chose de plus. Qui transcende cela et qui parle que ça dépasse le simple côté matériel, que Dieu est capable de lire dans son cœur, dans le cœur des humains, de connaître leurs pensées. Ça touche au temporel. Quand il dit tu es devant moi et derrière moi, ça peut être physique, devant, derrière, mais ça peut aussi être devant moi dans mon avenir ou dans mon passé. Ça touche à l'intime, à notre jardin secret. Notre jardin secret n'a aucun secret, justement, pour lui. Toute chose qu'on garde en nous, qu'on n'ose pas vraiment dire autour de nous, lui les connaît. Comment vous vivez-vous le fait que Dieu voit vos pensées, lit votre jardin secret? Ça vous met à l'aise ou mal à l'aise? Mal à l'aise? D'autres idées? Qu'est-ce que vous avez envie de cacher? Qu'est-ce que vous avez peur de révéler autour de vous? Des choses dont on n'est pas très fier? Est-ce que Dieu est à l'aise avec ce que vous pensez? Il n'est pas là pour juger à la base. Effectivement. Et puis il juge quand même. Mais on verra dans la suite du psaume, il y a des choses qu'il juge, mais il y a son amour. On en a parlé ce matin. En tout cas, l'auteur, lui, semble à l'aise avec ça. que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi. Il le voit de façon positive, il trouve ça merveilleux, il a confiance. Cela semble rassurer. Cela l'impressionne peut-être aussi un petit peu. Ça dépasse tout ce que je peux comprendre. Cette première strophe, je l'ai appelée transparence, mais confiance. Deuxième strophe, versets 7 à 12. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide. Ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi l'obscurité devient lumière et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. J'ai intitulé cette strophe « Partout en sécurité » et aussi « Sous son regard ». Partout en sécurité et aussi « Sous son regard ». En lisant ces versets, je ne sais pas toujours si comment les interpréter. Certains de ces versets, j'ai l'impression qu'ils expriment la confiance de l'auteur où qu'il aille. Où que je sois, ta main droite ne me lâche pas. La main droite, c'est celle qui est à droite, hein. Celle qui tient, celle qui a la force. Désolé pour les gauchers, hein. Mais dans la Bible, c'est comme ça. La main droite de Dieu, c'est celle qui ne nous lâche pas. Dans un monde où, à l'époque, il y a 3000 ans, on considérait les divinités comme locales. C'est-à-dire que le Dieu de Jérusalem avait son pouvoir à Jérusalem. Pouvait-il avoir un pouvoir jusqu'aux extrémités de la terre? En tout cas, c'est ce que dit le psalmiste. Mais globalement, à l'époque, les gens pensaient que Dieu avait un pouvoir local. Vous ne croyez pas? Jonas, quand tout à coup Dieu lui donne une mission. Alors Jonas, c'était un prophète, hein, il avait lu les prophéties, il savait que c'était les Assyriens qui devaient venir pour les battre, puis Dieu lui dit, bah, tu vas vers les Assyriens, puis tu leur demandes de se repentir. Jonas, il dit, non. Si Dieu les supprime, nous, on va survivre. Je vais partir. Je vais en Espagne. Là-bas, je vais lui échapper, non, à Dieu. Il ne lui échappe pas. Dieu le rattrape, puis il le ramène. Même si des événements difficiles bousculent ma vie. Alors, il y a les deux choses. Il y a la notion de déplacement. Même si je vais jusqu'au bout du monde, même si je pars en vacances jusqu'au bout du monde, Dieu est avec moi. Même si des choses difficiles bousculent ma vie. Et là, c'est peut-être l'autre phrase. Si je monte au ciel, tu es là. Si je vais jusqu'au paradis, tu es là. Si je descends jusqu'au séjour des morts, tu y seras aussi. Où que je sois, peu importe les situations, l'auteur exprime sa confiance en un Dieu universel, omniprésent, tout-puissant. C'est plus ou moins acquis pour nous, mais je pense que c'est bien de se le rappeler quand même. Mais d'autres versets dans ce passage me font penser au fait que peut-être que des moments, il a envie que Dieu tourne la tête. Ça vous arrive pas, ça? Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, l'obscurité, c'est un moyen de chercher à ne pas être vu, non? Les voleurs, s'ils volent la nuit, c'est pour qu'on ne les voit pas. En tout cas, moi, ça m'arrive. De temps en temps, j'ai envie de dire, tu tournes la tête là, Dieu, hein, tu regardes pas ce que je fais. Vous, ça ne vous arrive pas, ça ne vous arrive jamais. Hein. Mais moi, ça m'arrive. Parfois, j'ai l'impression d'être comme un petit enfant, vous savez, quand la maman est dans la chambre d'à côté. On en profite pour ouvrir le bocal de bonbons. Et je crois que l'auteur, ça lui arrive aussi. Puis il se rend compte que finalement, il peut pas se cacher. L'auteur se rappelle que pour lui, pour Dieu, la nuit est comme le jour, il le voit. Il se rappelle de la strophe 1, « Je ne peux rien te cacher ». Partout en sécurité, mais aussi partout sous son regard. Comme c'est une prière, je vais prier. Seigneur, je dois bien reconnaître que cette idée que tu me vois partout a parfois des avantages. C'est tellement rassurant de savoir que où que j'aille, même si j'allais faire des vacances sur la Lune, tu m'y verrais. Tu pourrais me protéger. Certains parlent d'aller sur Mars. Tu n'es pas trop petit pour être jusqu'à là-bas. Mais Seigneur, ça me rappelle aussi que j'ai besoin de ta grâce en permanence. Parce que, comme on le disait tout ce matin dans notre temps de louange, le péché continue de nous poursuivre et de nous faire chuter loin de toi. Seigneur, merci d'être avec nous dans nos inquiétudes. Merci de nous récupérer quand on chute. Amen. Je reprends ma lecture, troisième strophe. Versets 13 à 18. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de moi, de mon corps, une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté tous les jours, toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée. Ô Dieu, il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il n'y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Je me permets de te tutoyer là. Te savais-tu si proche de Dieu? Te savais-tu si précieux pour ce grand Dieu? Te savais-tu autant aimé par ce grand Dieu? L'auteur s'émerveille devant les capacités incroyables de ce Dieu de ce que Dieu a fait de lui. J'ai intitulé cette strophe « Émerveillement et humilité ». Il se sait précieux, important pour son Créateur. Il se sait aimé, chéri. Il sait aussi qu'il fait l'objet d'une attention particulière, dès même avant sa naissance, jusque pour toute l'éternité. Cet émerveillement le rend aussi humble. Il lâche prise, se confie. La fin du verset 18 peut avoir deux traductions. Ma traduction, c'est « Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. » Je ne sais pas si c'est la meilleure. Une autre traduction, c'est « Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. » Nous pouvons nous abandonner à une confiance totale. J'aime pas ça. Ça vous surprend. Hein. J'aime bien maîtriser les choses. J'aime bien tenir mon avenir dans mes mains. Peut-on tenir son avenir dans ses mains? Non, non. Mais ça veut dire que qu'on peut lui faire confiance, qui tient tout dans sa main. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'être actif dans la vie. On peut simplement se dire, plus besoin de travailler, plus besoin de prendre soin, non ? Non, Dieu veut quand même qu'on soit actif. Mais qui peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule coudée, ou un seul mètre, une seule seconde, à la durée de sa vie ? C'est une parole de Jésus, ça. Tout le souci que je porterai ne sera qu'une charge inutile. Je vais vous faire travailler. Je propose de répondre à deux questions. Si je comprends ce psaume, nous sommes tous des créatures merveilleuses pour Dieu. Des créatures incroyables que Dieu aime. Je propose de répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que tu ressens de te savoir si précieux pour ton Dieu? En quoi est-ce que ça te touche? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu de si particulier qui fait que tu es quelqu'un de particulier pour Dieu? De quelqu'un qui est unique pour lui. Je propose qu'on ait un petit moment de musique. Le pianiste va nous jouer un petit morceau de musique. Et pendant ce temps, je vais vous distribuer des cartes. Sur ces cartes, il y a un côté où il y a le verset que j'ai lu tout à l'heure. « Merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. » De l'autre côté, il y a de l'espace. Vous pouvez répondre à ces questions en écrivant. Si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez y réfléchir et faire votre devoir à la maison. Ce n'est pas un devoir noté. Hein. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas ramasser des copies. Et puis, j'ai des cartes de différentes couleurs. Je vais passer qu'il y a la musique. Vous pourrez choisir une carte d'une couleur ou d'une autre. Merci. Je t'inspire le texte, ouais. C'est pas très grave. On en rediscutera après. Je propose de la garder, cette carte. Vous pouvez aussi prendre le temps, peut-être cet après-midi, de parler avec quelqu'un que vous aimez, ou qui est quelqu'un de confiance, pour lui demander qu'est-ce que tu trouves de merveilleux que Dieu m'a donné. Je propose de la garder. Et quand un jour vous vivez un moment difficile, que vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Où est ma place? De la ressortir et de vous souvenir de ce que vous êtes pour ce Dieu extraordinaire. Les coachs sportifs appellent ça se construire une image mentale. Émerveillement et humilité. On arrive à la dernière strophe. Ô Dieu, tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcent ton nom pour mentir. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi tes ennemis personnels. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça vient faire à la fin de ce psaume? Pourquoi tant de haine? On était dans un tel état d'extase et tout à coup on a on a l'impression de buter contre quelque chose. Et pourtant c'est la suite logique. S'émerveiller devant ce Dieu si extraordinaire, c'est finalement se dresser contre tout ce qui s'oppose à ce Dieu. Ok, les mots sont très très forts. Faire mourir, chasser, dégoût, haine extrême, détester, ennemi. Peut-on aller jusqu'à là? Qu'est-ce que Dieu en pense? Je vous propose trois idées. La première idée, c'est Dieu a toujours puni le mal. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait et Dieu est parfaitement juste. Et Dieu a toujours puni le mal. Même quand il me pardonne à moi, quand il vous pardonne à vous, Dieu punit le mal. Le mal qu'il aurait dû punir sur vous pour pouvoir, quand il vous pardonne, il le punit sur Jésus-Christ. C'est lui qui souffre à notre place. Dieu a une sainte horreur du mal, du péché, de la rébellion. Mais il aime le pécheur. Et il est prêt à pardonner à celui qui se repent. Il est prêt à pardonner à celui qui vient à lui. Il est prêt à pardonner à celui qui s'humilie devant lui, qui lui demande pardon. Mais le mal, il le punit quand même sur Jésus. Par contre, il fera mourir le méchant. Le rebelle, celui qui se dresse contre lui, celui qui ne veut pas de son pardon, celui qui lui fait face et qui lui dit « je ne veux pas de toi ». Finalement, c'est cohérent avec la nature même de Dieu. Il est donc juste de s'indigner face au mal. Deuxième remarque, deuxième idée, ce psaume est écrit dans le cadre de l'Ancien Testament. Et dans le contexte d'un peuple appelé à vivre la sainteté, le roi d'Israël, sous l'autorité du roi des rois, est appelé à faire régner la justice et donc appelé à punir celui qui désobéit à la loi divine, celui qui se rebelle contre Dieu, le roi d'Israël. C'est dans ce contexte que le serviteur zélé avait ou devait tout mettre en œuvre pour la gloire de Dieu. C'est un encouragement à chercher la sainteté pour soi et la sainteté pour l'autre. Jésus nous a dit que on pouvait continuer à chercher la sainteté pour soi et pour l'autre avec d'autres armes, avec l'arme de l'amour. On est dans le Nouveau Testament. Et troisième remarque, finalement l'auteur lui-même a quelques scrupules. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien, le chemin de l'éternité. Colère contre le mal, oui, mais pas de débordement. Sonde mes motivations. Colère pour la sainteté. Quand la colère monte en nous, on a toujours deux attitudes possibles. La première attitude, c'est conduire, ça peut nous conduire dans le mal, réagir en faisant soi-même le mal. La deuxième attitude peut être de dire, de prendre notre distance par rapport au mal et d'essayer de chercher le bien. Comment cette colère peut m'amener à faire quelque chose de bien? Je propose un temps de silence. On a chacun peut-être la possibilité de se placer devant Dieu, face peut-être à nos colères, face peut-être aussi à nos inquiétudes. Je vous laisse devant notre Dieu. Je demande, Seigneur, de me donner cette même attitude que tu as toi, d'être capable de me dresser contre le mal tout en aimant celui qui fait le mal. Travaille mon cœur pour que je te ressemble, Seigneur. Amen. J'ai intitulé cette dernière strophe « Colère, mais pour la sainteté ». Voilà, dans ce psaume, l'auteur exprime ses états d'âme. Il aborde sa confiance dans son Dieu qui le connaît parfaitement. Il confesse sa confiance au travers des inquiétudes. Il s'émerveille en regardant à son être, sa vie. Il s'indigne face à ceux qui se dressent contre son Créateur si extraordinaire. Mais finalement, il nous parle de ce Dieu qu'il connaît, qu'il découvre. Qu'il l'a touché.